C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Question très simple et je te préviens, Luc, que les auditeurs attendent avec impatience ta prise de position. Est-ce que c'est réaliste d'avoir une équipe de baseball en garde partagée à Montréal qui implique la construction d'un stade au centre-ville?
Ben que non. Parce que premièrement, là, regarde le propre... Si ça va de l'avant, le gouvernement du Québec serait propriétaire de deux stades à Montréal. Hey, ça va bien. Ça va bien, les affaires. Deux stades à Montréal. Un qui serait vide à temps plein, puis l'autre qui serait vide à temps plein, sauf quelques jours par année. C'est extraterrestre comme proposition. Ou alors, il y a une autre possibilité, c'est que le stade du centre-ville serve aussi à faire des spectacles. Donc, serait utilisé pour les autres activités du groupe. Mais il y a eu une proposition, les gens oublient ça. Il y a eu une proposition dans le Parc Jarry de mettre un toit sur le stade du Parc Jarry parce que Tennis Canada voulait avoir un stade qui permettait justement de faire des spectacles. Il demandait 20 millions. Puis Tennis Canada utilise son argent pour former des nouveaux joueurs de tennis.
Avec succès d'ailleurs.
Avec succès d'ailleurs. Ben, ça leur aurait été refusé pour 20 millions. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi la logique intellectuelle pour permettre un stade qui va pas coûter 20 millions au centre-ville alors qu'il y en a un autre. Première chose. Deuxième chose, la position des élus. Les deux élus hier, les deux candidats à la mairie, Denis Coderre puis Valérie Plante, s'avèrent finalement sur la même longueur d'onde. Et là, moi, ça trahit pourtant mes allégeances, mais je suis plutôt reconnaissant envers Denis Coderre d'avoir changé de position parce que Dieu qui l'y tenait. C'était fou comment ce gars-là avait une vision de Montréal, ville de fun, ville de spectacle. Il voulait un héliport. Il avait fait le stade Evenco sur le centre à l'île Sainte-Hélène. Il voulait son stade de baseball. Et là, il a fait preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de retenue. Il s'est beaucoup restreint. Puis je pense de façon honnête, il dit pas j'aime pas le baseball, mais il dit c'est pas la priorité. Puis c'est pas de ça que je veux parler. J'ai été assez reconnaissant de cette position-là. Par contre, la position de Valérie Plante me semble une sorte de transformation de la vision de Projet Montréal. J'ai pas dit trahison, j'ai dit transformation. Elle a le droit de transformer. Non, c'est vrai, c'est elle. Tu sais, regarde, dans le nouveau livre qui sort sur Projet Montréal, là, ça explique bien comme il faut qu'il y a eu trois périodes. La période Bergeron, la période Ferrandaise, la période Plante. Puis chacune des personnes a transformé le parti après l'avoir pris en main. Et donc, Plante, elle a le droit. T'sais, elle l'a pris, bon, mais c'est cette transformation-là, c'est quand même pas la vision de Projet Montréal quartier par quartier. C'est quoi le coût d'opportunité de construire un stade à cet endroit-là? C'est quoi, de quoi Montréal a besoin? A besoin de quartier, a besoin de résidentiel. La première préoccupation des Montréalais lors du sondage léger, c'est d'avoir accès à du logement ou à de la propriété. Et là, on va donner tout un quartier pour faire un stade. Moi, je trouve que c'est contre les valeurs de Projet Montréal qu'il y avait à l'époque. Alors, elle a le droit d'être transformée, comme je dis, mais je trouve que c'est contre.
OK. Nathalie?
Ben, moi, sur cette dimension-là, Luc, je pense que le gouvernement a déjà compris ça, qu'on ne peut pas construire un stade uniquement seul. Il faut que ce soit associé à un quartier. D'ailleurs, la présidente d'Ivanhoé Cambridge, qui est associée à la Caisse de dépôt, s'est déjà positionnée en disant le stade, non. Mais si ça s'insère dans un projet de quartier, nous, ça va peut-être nous intéresser. En fait, quelles sont les intentions du gouvernement à ce moment-ci? On veut savoir. Hier, à ton micro, Paul, Denis Coderre et Valérie Plante sont exprimés sur le sujet. Mais Valérie Plante semblait nous dire qu'il y avait une annonce imminente quelque part après le 7 novembre.
Je la cite. Je vais laisser les promoteurs, là, les porteurs du projet, faire l'annonce. Ça veut dire qu'elle sait qu'il va y avoir une annonce.
Ben exactement. Alors, est-ce que le 7 novembre, c'est loin, est-ce que le gouvernement va pouvoir demeurer silencieux d'ici au 7 novembre? Je vous le dis tout de suite, la réponse est non. Parce qu'à partir de maintenant, le gouvernement va être talonné sur ses intentions. J'ai consulté hier le registre des lobbyistes et je peux vous dire qu'actuellement, là, entre groupe baseball, le groupe de baseball de Montréal, là, et le gouvernement, ça se joue entre le ministre de l'Économie, le bureau du premier ministre et le ministre des Finances. Parce que depuis 2018, ça c'est l'année où Stéphane Bronfman et Pierre Boivin se sont inscrits au registre des lobbyistes. Le mandat a évolué. Au départ, on voulait l'aide du gouvernement pour convaincre le fédéral d'acquérir le terrain. Maintenant, là, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, on est plus dans une dynamique où on veut connaître la façon dont le gouvernement pourrait supporter financièrement un projet de stade. Est-ce que ça sera sous forme de subvention? Et Luc, moi, je te dis, Je suis pas certaine que le gouvernement va devenir propriétaire du stade de Montréal si stade il y a. Oubliez ça, là, ça n'arrivera pas. Là. Le gouvernement, c'est pas dans la mission du gouvernement. Ils vont s'organiser probablement pour avoir un montage financier extrêmement créatif qui fera en sorte qu'il y aurait une plus-value liée pour Montréal, liée à la construction du stade. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les citoyens qui vivent dans Griffintown. Moi, je connais des gens qui vivent là-bas, qui ne veulent absolument rien savoir d'un projet de stade à Montréal, parce qu'ils disent, écoutez, là, ça va venir hypothéquer la quiétude de mon quartier. Alors ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger.
Mais non, je laisse soulever un point qu'on avait une discussion de corridor tantôt, mais
oui.
Je vais l'amener à l'antenne. Il ne faut pas oublier que le stade olympique, il y a des travaux de rénovation qui sont prévus, là, notamment toute la question du toit. Alors, d'un côté, vas-tu mettre, je sais pas, 200, 300 millions de fonds publics au stade olympique, puis en parallèle, participer directement et indirectement, peu importe la forme, à la construction d'un stade au centre-ville.
Mais c'est là que tu peux mesurer l'insoutenable légèreté de l'être. Parce que, oui, parce que ils savent ça. Tu sais, M. Labrec a fait un excellent travail à faire la démonstration de ce qui était nécessaire et pas pour le stade olympique. Juste pour le mettre aux normes pour recevoir un événement international, le FIFA, c'était 300 millions de dollars, mais ça comprenait pas le toit. Fait que le gouvernement du Québec, t'as pas le choix, là, il est là, le stade, là, fait que faut que tu fasses des investissements dedans, à moins que tu décides, on n'en mettra pas de toit. Tu sais, pour le nombre d'événements qu'il y a dessus, là, on n'en mettra pas, on oublie ça. Mais bon, il y a un stade là, puis il faut que tu mettes des centaines de millions, puis là, à l'autre bout. Alors, je pense, je suis d'accord avec toi, Nathalie, qu'ils vont pas dire, on vous donne de l'argent pour le stade. D'ailleurs, Fitzgibbon avait dit, ouais. Moi, je ne veux pas investir dans un truc qui ne prendra jamais de valeur alors que l'équipe pourrait en prendre. Fait que mon hypothèse, c'est qu'ils leur ont proposé un consortium dans lequel le gouvernement du Québec aurait une participation à la fois dans l'équipe et dans le stade, où tout le consortium aurait une participation dans l'équipe et dans le stade. Ça, je pense que ça pourrait être ça. L'autre affaire que tu mentionnes, de dire on va faire un quartier à cet endroit-là, oui, mais OK, mais prenez, tu sais, là, ceux qui veulent rénover leur cuisine, là. Ils prennent le plan, ils regardent, ils mesurent, puis là, ils regardent, ouais, où est-ce que je vais mettre le four? Bon, c'est pareil quand tu fais de l'aménagement urbain. Pas plus compliqué. Prends le quartier, là, prends le carré qui est là, là, puis demande-toi, je le mets où, le stade, puis qu'est-ce que je mets autour? Autour d'un stade, là, ça a des murs d'environ une dizaine d'étages de haut, un stade, là. Ça veut dire que les 10 étages qui sont de l'autre bord de la rue sont dans l'ombre. Ils sont face à un mur. Mais ça marche pas. Fait que ça prend une esplanade, ça prend un tour. Après ça, il y a quand même une couple de monde qui va venir en stationnement. Fait que tu vas le mettre où, le stationnement? Mais quand tu arrives à ça, il te reste de la place pour mettre 3 maisons. Fait que quand tu te dis on va faire un quartier, j'aimerais ça que ça aboutisse dans une vraie proposition, puis me dire mais il va être comment, le quartier?
C'est un réel défi. C'est un réel défi. Puis l'autre affaire aussi, les partis d'opposition ont donné le ton hier à l'Assemblée nationale en disant, puis je pense, je vais citer Enrico Ciccone qui dit, le gouvernement Legault est accusé de rendre service à des chums milliardaires. Et QS, comment ça s'appelle, Vincent Marissal a fait une sortie en disant, voyons donc, c'est comme, il parle de la patente à Youpi, là, en parlant du stade de baseball. Tu sais, ça peut pas être ça. Alors, sur le plan de l'opinion publique, j'ai l'impression que le gouvernement va être en décalage et il devra trouver la bonne voie de passage pour concilier l'opposition des citoyens au fait que le gouvernement serait tenté ou a l'intention d'investir dans un stade de baseball versus le bon moyen de le faire pour éviter d'être trop critiqué. Puis l'autre chose, Paul, c'est il y a la question du modèle d'affaires comme tel. Moi, je suis pas une espèce, je m'appelle pas Ray Lalonde ni Alain Crête, là, mais quand tu regardes ça, tu dis, est-ce que ça peut tenir la route, un modèle d'affaires qui fait en sorte qu'on a une garde partagée sur le plan financier, c'est une chose, mais est-ce que l'association des joueurs, par exemple, s'est positionnée dans ce dossier-là? Quel sera l'impact sur la vie de famille pour les joueurs qui seraient invités à partager leur vie entre Montréal et la Floride? Enfin, moi, je me pose des questions.
Tu dis aux joueurs, faites-vous greffer votre passeport sur le front parce que vous allez avoir à le prendre souvent en motadi. Ah, il pleut à Montréal en fin de semaine, on va aller jouer à Tampa.
On fait une pause. Au retour, un peu de politique fédérale une semaine après les élections. Le chef du Bloc québécois qui dit que M. Trudeau a un genou au sol. Est-ce qu'il a raison? On en discute dans quelques instants.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, une semaine après les élections fédérales, où en sommes-nous? Il y a le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui dit que le premier ministre Trudeau a un genou au sol et il estime que finalement, position de faiblesse après un résultat qui le place minoritaire. Nathalie.
Ben, j'ai l'impression que le chef du Bloc québécois ressemble à l'arroseur arrosé. En fait, c'est une stratégie en politique, on appelle ça faire diversion. En fait, faire oublier les résultats de la dernière élection. Rappelons-nous, hein, le Bloc a commencé avec, est allé en élection avec 32 sièges. L'objectif était d'en récolter 40. Finalement, ça s'est terminé à 33. Alors, c'est un classique en politique. Il lance la boîte à son adversaire. Il tente de définir son adversaire qui est Justin Trudeau. Mais la réalité, triste pour le chef du Bloc québécois, c'est que le Parti libéral du Canada a fait davantage que le Bloc au Québec. Ils ont remporté un siège de plus. Est-ce que Justin Trudeau a le genou à terre? Non. Justin Trudeau est bien en selle avec son gouvernement pour 3 ans minimum. Minimum. Et le fait qu'il soit un gouvernement à la tête d'un gouvernement minoritaire n'a pas empêché Justin Trudeau d'annoncer 6 milliards pour le Québec pour compenser là pour ce qui est des services en garderie. N'a pas empêché Justin Trudeau d'accueillir les deux Michael libérés en fin de semaine. On l'a vu. Alors, puis ce qui est assez ironique, et je vais terminer là-dessus, c'est que pendant que le Bloc s'en prend à Justin Trudeau, ben lui-même tend la main au Canada anglais pour aller les convaincre du bien fondé de l'adoption de certaines lois. Et j'ai comme l'intuition qu'il va être accueilli, comment dire, sans ovation aucune, M. Blanchet, au Canada anglais.
Ben moi je pense que il y a un dossier sur lequel les oppositions s'entendent, c'est les transferts de santé. Le seul dossier sur lequel Justin Trudeau pourrait mettre le genou par terre, c'est les transferts de santé, puisque t'as le NPD, le Bloc puis les conservateurs qui veulent aller dans ce sens-là. Mais à part ça, tous les autres dossiers, ils s'entendent pas. Les oppositions s'entendent pas, ne s'entendront jamais, et donc peuvent pas se liguer contre le premier ministre. Donc, comme tu dis, Justin Trudeau est en selle pour longtemps. Pour les soins de santé, pour les transferts en santé, ce qu'il va faire, sans doute, une alliance avec le NPD où il va dire oui, je vais transférer de l'argent, mais je vais le transférer de façon ciblée. Et dans cette façon ciblée de transférer de l'argent, il va y avoir 2-3 priorités du NPD. C'est de cette façon-là qu'il va s'en sortir. Mais pour le reste, là, c'est une mer calme, sans vent. Puis tous les partis sont comme un voilier sur cette mer calme-là en se demandant quand est-ce que le vent va monter. Puis ça sera jamais. Parce que ils ont fait la démonstration. Chaque parti a fait la démonstration qu'il ne pouvait pas aller chercher un vote de plus. Et donc, il n'y a pas de révolution en vue, là. Les conservateurs ont été obligés de se tordre en deux pour aller chercher un vote de plus. Ça va beaucoup, beaucoup affaiblir leur position en chambre. En chambre, là, tu vas mener la guerre en disant vous avez pas vous comprenez pas les Canadiens, M. Trudeau. Mais en disant quoi? Les armes automatiques ont reculé, la taxe carbone ont reculé, le déficit ont reculé. Pour chaque fois que ces thèmes-là vont arriver, ils vont être obligés de Trudeau va pouvoir leur dire, écoutez, là, vous avez reculé sur vos propres positions. Avant de venir faire la leçon, là, ça va être long. Pareil pour le Bloc qui dit parler au nom des Québécois, mais il s'est tellement tiré dans le pied pendant l'élection avec le projet qu'on l'a. On sait, je veux pas te mentionner trop souvent, je me suis donné un quota pour pas me mentionner trop souvent, mais je me suis dit...
Tu mets 2$ dans le pot? Ouais.
Moi, j'ai pas de restriction, alors tu parles du troisième, bien, oui, continue.
Donc, en démontrant qu'il avait pas du tout compris l'esprit des Québécois sur ce projet-là, maintenant, il ne pourra plus dire « je représente les Québécois ». Et c'est pareil avec le NPD. Le NPD, incapable d'aller chercher un vote de plus, ne peut pas dire les Canadiens souffrent et vous n'êtes pas capable de les comprendre, M. Trudeau. Alors, à mon avis, là, on peut ne pas parler de politique fédérale pendant les 3 prochaines années, puis ça ne changera rien.
Ben, je nuancerai un peu ce que tu viens de dire. Mais sur la réplique du chef du Bloc québécois, François Blanchet, à l'endroit de Justin Trudeau, c'est une réplique qui détonne lorsqu'il affirme que Justin Trudeau a un genou à terre. C'est une réplique qui détonne par rapport aux félicitations qu'a adressées François Legault au lendemain de l'élection. Rappelez-vous, il a félicité Justin Trudeau pour son élection en disant « on est prêt à travailler ensemble ». Tu as raison, Luc, le dossier chaud, ça va être les transferts en santé. Puis tout est dans la façon de voir les choses, hein. Justin Trudeau va négocier avec le Québec. Il n'a pas intérêt à se mettre les provinces à dos. Je t'entendais pas le dire un peu plus tôt avec Bernard. Quelle sera la position des autres provinces sur les conditions que souhaite rattacher Ottawa au transfert? Est-ce que le Québec va se retrouver seul dans le combat face à Ottawa pour ce qui est des conditions rattachées au transfert? C'est une autre affaire. Mais quand on arrive, si Ottawa arrive avec une liasse de billets, je peux vous dire une chose, les provinces vont être parlables. Mm-hmm. Parce que François Legault a besoin de cet argent-là. La preuve, c'est que l'opération qu'il a lancée la semaine dernière pour rapatrier ou convaincre des infirmières et infirmiers dans le réseau, ça, il est prêt à mettre $1 milliard sur la table. Ça prend quelqu'un pour payer ça. Il va se tourner vers Ottawa puis il va dire, écoutez, regardez là, ce que ça nous coûte le système de santé. On a besoin de l'aide d'Ottawa. Alors, ça va être un automne peut-être pas si calme que ça, mon cher Luc, et la rumeur veut, parce que tu posais la question, Paul, un peu plus tôt, à quel moment Justin Trudeau va nommer son conseil des ministres?
Ouais.
Il y a une rumeur qui veut que ce soit tard en octobre.
Alors, tard en octobre?
Ça, tard en octobre. Oui, puis j'ai eu la même réaction que toi. Je me suis dit, un mois, il y aurait un mois, trois semaines, un mois avant qu'il nomme son nouveau conseil des ministres. C'est la rumeur qui circule à Ottawa actuellement. Bon, rumeur, tu sais ce que c'est, les corridor, là. Mais il va prendre son temps pour, dans le fond, envoyer un message clair aux Canadiens qu'il est bien en selle puis qu'il y a les bons ministres dans les bons ministères pour faire le travail qu'il est appelé à faire.
Moi, il y a un truc que je souhaite, c'est que je pense qu'une des raisons pour laquelle Trudeau a été élu, c'est la plateforme environnementale qui était plus forte que celle des conservateurs.
Oui.
Et je pense que là-dessus, il y a un peu de marge de manœuvre, il y a un peu de légitimité, et j'espère qu'il va la mettre en œuvre, qu'il va commencer à mettre les morceaux de robots les uns par-dessus les autres. Parce qu'en plus, c'est sa dernière... Il n'y a plus rien à perdre. Là. C'est sa dernière élection. Il s'en va. Il va être remplacé par quelqu'un qui va... si c'est Chrystia Freeland est encore plus environnementaliste que lui, mais là, je pense qu'il y a le chemin devant lui là, pour faire un peu de millage. Et moi, il pourrait racheter cette espèce d'image de personne qui vogue d'un projet à l'autre de façon électoraliste sans mettre son pied par terre en ayant une vraie position environnementale d'ici les trois prochaines années.
Tu sais quoi, mon cher Luc, les hommes, les femmes politiques étant ce qu'elles sont, il va probablement tenter de laisser un legs, un héritage, parce que dans trois ans, lorsqu'il aura quitté, on va se dire, ou dans deux ans, on va se dire, ben qu'est-ce que, tu comprends-tu, comment Justin Trudeau, son gouvernement auront fait une différence pour la vie des Canadiens? Puis tu as raison, l'enjeu environnemental est fondamental, parce que on a frappé le mur, ça prend des gestes absolument forts, musclés, et là-dessus, ça prend un ministre de l'Environnement également qui est capable de prendre la chaleur et de poser des gestes qui sont drastiques, mais en même temps...
Bernard a soulevé l'hypothèse, est-ce que tu nommes Stephen Guilbeault à l'Environnement?
Je partage l'avis de Bernard là-dessus. Je suis d'accord avec lui.
Moi aussi.
D'ailleurs, c'est une occasion manquée à la dernière, au dernier Conseil des ministres, au dernier remaniement. Là.
C'est pas comme si on peut nommer. C'est pas comme si on pouvait pas nommer quelqu'un d'autre au patrimoine. Hein? Il n'y a pas comme le patrimoine.
ça pourrait se faire.
Ouais.
Merci à tous les deux. On vous retrouve évidemment demain.
C'est 23.